Bonjour à tous. Il est difficile de passer après ce bête exposé, mais nous tâcherons de faire au mieux. Du coup, je me présente, je suis Colin Kombila, et mon collègue ici présent, Satur Alain. Nous sommes tous les doctorants à l'Université de Pau, au milieu de l'Agglo, et notre communication a porté sur. Ça s'est passé. Sur la gouvernance du parc national de l'AOP, sur l'impact de la gouvernance de la création du parc national de l'AOP. Il faut déjà dire que le Gabon est un pays situé en Afrique centrale et dont la capitale est Libreville.
Il est couvert à une superficie de 267 km² et à une population de 1 811 079 habitants. Il appartient au bassin de l'économie qui est le bassin forestier après l'Amazon et il est couvert à 80% par la forêt.
Il faut dire que la forêt du Gabon est sujette à de nombreux enjeux, notamment les enjeux économiques, par l'exploitation, par l'industrialisation de la filière bois. Mais nous avons aussi des enjeux sociaux, notamment
avec le fait que la forêt constitue justement une ressource nourricière pour les communautés villageoises, en termes d'agriculture, de chasse, etc. Et tous ces enjeux qui sont couplés justement à la volonté du Gabon à pouvoir assurer justement l'équilibre environnemental, notamment par le code forestier de 1982, le code forestier de 2001, mais aussi par la posture tenue par les autorités gabonaises lors du sommet des Jeunesses en 2002, qui prévoyait justement la création des parcs nationaux et qui est couplé justement à la pression de la communauté internationale, notamment ces ONG, qui sont WCS, mais aussi WTF. Tous ces enjeux, justement, ont occasionné la création, ont occasionné une nouvelle dynamique justement de la politique environnementale et qui s'est matérialisée en 2002 par la création de 13 parcs nationaux qui représentent 11% du territoire aujourd'hui. Et dans la l'OP, dont on fait état. Et en 2017, nous assistons également à la création de 17 aires marines. Nous avons ici en mémoire justement la localisation, peut-être un placement de ces différents parcs nationaux. Nous avons juste ici, une marche.
Nous avons juste ici, qui sont repartis sur l'ensemble du territoire du pays, juste envers ici. Et nous avons la l'OP ici. Justement, qui traverse quatre régions du Gabon. Elle est juste là au centre. Et nous avons aussi le littoral, justement, qui fait 800 km de côte. Nous avons ici les aires, les différentes aires marines. Et donc, tout cela nous amène justement à nous interroger sur l'incidence et la gouvernance du parc national développé sur la protection de la biodiversité. Premièrement, avant d'entrer dans le sujet, quand même, il s'avère important de vous présenter la bucéonose animale et végétale qui constitue le parc national de l'AOP. Et sur le plan forestier, nous allons dire que l'AOP est constituée d'une juxtaposition de plusieurs types de végétation. Nous allons premièrement la savane. La savane, justement, qui est constituée de graminées et d'arbustes qui résistent au feu. Elle est localisée juste ici, au nord du parc de l'AOP. Nous avons juste ici. Nous la retrouvons également à l'est. Et hormis la savane, nous avons les forêts pionnières. Qui sont constitués, qui sont dominés par l'Okoumé, qui est l'essence même, l'essence phare justement du Gabon. Et à côté de l'Okoumé, nous avons le Zouga et nous avons également l'Azomé. Donc, nous la retrouvons ici, cette forêt pionnière, en vert clair, on va dire, en fume. Et nous avons également la forêt mature. Et la forêt mature, elle est justement constituée d'un millénaire, c'est-à-dire que c'est dans cette forêt que l'on retrouve les plus anciens arbres du parc. Sur cette image, je vais vous montrer justement la particularité du parc national développé. C'est-à-dire, c'est la mosaïque forêt-savane. Ce qui est assez original pour un pays comme le Gabon, qui est composé à plus de 80% par la forêt. Donc, nous retrouvons ici la forêt et la savane. Donc, la particularité du parc national développé, c'est que nous avons une mosaïque forêt-savane. Un point de vue faunistique. Pour dire que le Gabon, le parc national de l'AOP est constitué de plusieurs espèces. Nous avons les mammifères, notamment les antilopes, les léopards, nous avons le chat doré africain, etc. Mais nous avons également une quinzaine d'espèces de primates, que sont le chimpanzé, le singe, le chloré de l'Ouest, le colobe noir, etc. Nous avons également une grande famille d'espèces d'oiseaux, qui lui vaut d'ailleurs le statut, je parle du parc national de l'AOP bien sûr, qui lui vaut également le statut d'espace incontournable pour les. Qui sont les ornithologues, avec environ 400 000 espèces qui ont été recensées. Nous avons le Tourate Cochinan, nous avons le Pyrrhélite Acolyte, l'Espèce aquatique. Et sur ces images, remarquez ici, nous avons les éléphants, le savane, qui eux vivent en groupe. Et nous avons ici un éléphant de forêt qui a la particularité d'être solitaire. Et ici, nous avons le mantri, selon de nombreux chercheurs, nous avons affaire justement à la plus grande communauté de mantri au monde, qui, selon Darwin, est justement. Ils sont présentés comme les animaux les plus spectaculaires au monde. Et nous avons ici, juste à côté, nous avons les buffles qui sont frileux de bas de boue. Et nous avons ici en image le guépier à gorge blanche. Nous avons ici une pléthore d'animaux, mais vu le temps que c'est parti, nous n'avons pas eu le temps de les présenter ici. Et donc, ce conglomérat, cet ensemble d'éléments, a valu justement à l'OP être qualifié de véritable sanctuaire pour la faune africaine. Et donc pour la suite, je vais laisser la parole à mon collègue, Sacha Lindon, qui nous parlera justement de l'impact de la création du parc national de la Loupé sur la protection justement des espèces animales et végétales.
Donc, effectivement, je vais vous parler de l'impact. Et il faut préciser qu'avant de parler de cet impact, il faut commencer par la législation de la Lopé. La Lopé, comme la plupart des pays qui ont été colonisés, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, ont connu une certaine création de réserves par les anciens colonisateurs. Donc la Lopé, au niveau du Gabon, en fait partie. Donc en 1946, la réserve a été créée par les Français, bien entendu. Et puis, avec l'évolution, on arrive à la création de l'aire protégée d'exploitation nationale. Donc, une fois le Gabon accède à l'indépendance, le Gabon s'approprie déjà le territoire et le Gabon prend un peu en commande son propre, je vais dire sa propre réserve. Et ça a évolué vers 1996 avec la réserve intégrale. Donc, la législation a évolué au fur et à mesure jusqu'en 2002, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Il y a eu, au sommet de Johannesburg, il y a eu cette annonce du président de la République où il dit donner à l'humanité 11% de la superficie pour l'environnement, donc la création de 13 parcs nationaux où la Lopé se transforme en parc national. Et donc, après, on a eu cette évolution-là parce que la législation a eu des incidences. La première incidence, c'est qu'on a eu une évolution de la superficie. On est passé de l'ancienne superficie qui était de 346 000 hectares, juste là, de 343 000 hectares autant pour moi, à 489 900 hectares. Donc il y a eu cette évolution considérable, cette récupération, parce qu'on a contraint à certains exploitants forestiers, comme le roi que vous connaissez certainement, d'abandonner certaines superficies occupées autrefois parce qu'il y avait de l'exploitation juste aux abords de la réserve avant. Donc, ces exploitants ont laissé ces superficies et avec la législation, on arrive à cette augmentation de la superficie au niveau de la Lopé. Et vous voyez bien que l'autre incidence, c'est que le Gabon s'inscrit aussi sur le plan environnemental dans s'inscrit dans le cadre international de la protection de l'environnement, donc est signataire de la CITES. Et la CITES, c'est quelque chose qui a été signé bien longtemps. Mais le Gabon ne s'approprie la CITES qu'en 2012 où il fait cette proposition d'espèces. Et aujourd'hui, il y a des espèces comme ça. Nous nous retrouvons avec des espèces intégralement protégées où le fait de toucher une seule de ces espèces peut vous valoir une quinzaine d'années de prison et des millions d'euros d'amende. Donc il y a ça, des espèces intégralement protégées et des espèces partiellement protégées. Donc la législation a eu cette incidence-là de protéger certaines espèces animales. Et donc, l'augmentation donc, de la superficie a également eu d'autres incidences, c'est qu'aujourd'hui, la Lopé couvre la plus grande densité des chimpanzés et des gorilles, soit 2,2 espèces par kilomètre carré. Donc il y a aussi la densité d'éléphants qui a considérablement évolué, comme vous le voyez avec les statistiques, et c'est une des plus grandes concentrations de mandrilles, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Maintenant, on voit qu'avec cette évolution de la réglementation et l'évolution de la superficie, on arrive à conserver aussi bien la faune que la flore. Donc, il y a évidemment des espèces végétales qui ont été bien conservées et qui sont toujours conservées aujourd'hui. On se retrouve peut-être, par exemple, avec 120 familles de plantes, présentant 1500 espèces recensées. Et donc, c'est des éléments comme ça qu'on retrouve au niveau du parc national de la Lopé. Et au niveau du parc national de la Lopé, pardon, il y a aussi la problématique de la connectivité écologique. On se retrouve avec un parc qui est à cheval entre quatre provinces, comme ça a été rappelé. Donc, vous le voyez sur la carte. Et à des périodes, par exemple en hiver, il y a cette migration qui est forte, et en été, ça varie. Donc, lorsqu'il y a la perte des fruits, certains animaux, comme l'éléphant, tentent à sortir de l'espace protégé pour aller rechercher à se nourrir ailleurs. Donc, il y a cette migration qui se fait, mais la collectivité écologique, nous voulons l'étendre, parce que le Gabon compte quand même 11 parcs nationaux, et ces parcs nationaux ne sont pas si éloignés. Donc, on essaie un peu d'étudier cette connectivité écologique, voir comment cette migration se fait entre la Lopé et les autres parcs. Et donc, l'augmentation a eu d'autres formes de conflits, comme vous pouvez bien imaginer. C'est-à-dire, il y a le développement de ce conflit homme-faune qui est là, et le fait qu'il y ait une croissance des espèces animales au niveau du parc de la Lopé, ça a directement impacté sur les différentes activités des populations locales qui se retrouvent dans des systèmes où ils ne peuvent plus rien contrôler là. Ça, ce sont les anciennes formes de protection de leur plantation. On voit les fuies, on voit les barbelés, mais ça ne donnait rien parce que les barbelés ne peuvent venir devant cet éléphant qui pèse je ne sais combien de tonnes. Donc, les éléphants traversent directement ces barbelés et on arrive à ces situations-là, donc les dévastations des plantes, tout ça. Mais on se rend compte que... Oula. Mais bon, voilà. Avec ça, les autorités se sont réunies pour essayer de trouver des solutions à cette déforestation, à cette dévastation de plantes. Et malheureusement, l'image n'est pas là. On se retrouve avec un certain nombre d'acteurs qui essaient de trouver une solution. Les ONG, bien entendu, qui existent, qui sont là depuis les années 80. Parce qu'il y a des études qui ont été menées par WWF et WCS pour essayer de voir comment est-ce que le Gabon peut parvenir à la création de parcs nationaux. Et il y a des acteurs locaux, donc les ministères, les agences et d'autres partenaires qui viennent pour essayer de pallier à cette question. Et donc là, on voit un peu comment est-ce que le parc est reparti. Et quels sont les acteurs qui gèrent ces parcs à l'intérieur, donc dans la zone protégée, c'est-à-dire ce que vous voyez en vert, c'est l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon qui est considérée comme l'acteur principal de la gouvernance de cet espace. Et dans la zone périphérique, comme la plupart des parcs, on a le ministère qui était dès le départ acteur principal, mais avec l'évolution de la juridiction, le ministère est passé en seconde position et le ministère n'a pour responsabilité que de gérer la zone extérieure au parc. Et l'ONG WCS vient en tant que partenaire qui assiste un peu l'évolution entre les politiques internationales et l'évolution des politiques locales. Et là, par rapport au conflit homme-faune dont je vous ai parlé, je finis. On se retrouve avec ce modèle qu'on appelle le CCGL, où on retrouve les acteurs qui vont discuter des questions de gouvernance du parc et trouver une solution à ce problème. Et voilà ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a créé ce qu'on appelle des barrières électriques, c'est-à-dire ce sont des barrières qui repoussent les espèces comme l'éléphant, c'est-à-dire avec une petite décharge électrique. L'éléphant ne meurt pas, mais l'éléphant recule par rapport à la pression électrique qui est là. Et à l'intérieur des barrières, il y a des populations qui vont faire leurs activités agricoles et développer leurs plantations. Et donc, voici un peu ce que nous avons constaté jusque-là, c'est-à-dire que les ressources forestières au Gabon sont toujours bien protégées. La faune et la flore sont également en bonne forme. Et les recherches continuent. Cependant, les prônes au niveau du Gabon, il demeure un vrai problème, c'est le problème d'inventaire. Et on travaille là-dessus, et les politiques également qui doivent évoluer. Donc, voici un peu ce qu'on pouvait dire du parc national de la Lopé. Et on espère trouver pas mal de solutions pour les recherches. Je vous remercie.